La figure archétypique que j'ai du fonctionnement d'une, enfin, ouais, des politiques de l'eau, finalement, ça va être une vallée, comme la vallée de la Drôme, où la rivière est un axe structurant de la vallée, une rivière qui court, qui change de couleur, de rythme, tout au long de l'année, et qui sert à plein de choses. Enfin, que les gens fréquentent, qu'ils voient, dont ils parlent, qu'ils y vont pour se rafraîchir, pour se baigner, pour se promener, pour pêcher. Mais c'est aussi une ressource qui sert pour d'autres usages, en fait, notamment l'agriculture. Ça, on le voit un peu. Et puis, quand on se penche un peu plus, on se rend compte aussi que l'eau dans ce territoire-là, elle sert, cette eau de la rivière ou sa nappe d'accompagnement peut aussi servir pour l'eau potable, en fait. Donc, vraiment, elle est nécessaire pour tous les acteurs du territoire.
Nous, on a la chance pour la rivière Drôme, c'est d'avoir un syndicat de rivière qui soit très ancien, avec une commission locale de l'eau qui est travaillée depuis des années et des années. Parce qu'avant, les rivières, elles étaient saucissonnées en fait. On ne prenait pas tout le bassin versant. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de petits syndicats tout le long de la rivière. Rivière Drôme, ils ont fait sauter ça depuis des années et des années. Il y a eu toujours un seul syndicat. Ce qui fait que pour la gestion de la rivière et les choses qu'on pouvait faire sur cette rivière, ça a été beaucoup plus efficace. Dans les années 80 a été écrit le premier SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de France. Et que ce premier SAGE, il a été écrit parce qu'il y avait des conflits énormes avec l'agriculture, justement. Et que c'était dans un souci d'apaisement où, à l'époque, les personnes qui s'occupaient des syndicats de rivière et de la commission locale de l'eau ont décidé de réunir les gens. Et commission locale de l'eau, c'est le parlement de l'eau.
Le début d'une politique coordonnée autour de l'eau, elle naît comme souvent autour de conflits d'usage entre des secteurs économiques qui utilisaient l'eau chacun de son côté pour des raisons différentes, mais qui étaient des formes d'accaparement. Alors il y avait ceux qui utilisaient le gravier pour aller construire notamment les routes, les centrales nucléaires, etc. Puis on était dans un système, comment dire, oui, où il y avait vraiment un accaparement au sens où c'était des entreprises qui prélevaient avec la bienveillance des élus, notamment des élus départementaux, et la bienveillance, voire l'appui, y compris technique, des services de l'État, de la DDE. Puis à côté de ça, on avait un peu le même système, mais du côté de l'agriculture, avec des agriculteurs qui voulaient irriguer, avec l'appui de leurs élus, et puis surtout départementaux, encore une fois, parce que l'idée de faire une agriculture drômoise à la pointe, enfin moderne en fait, hein, dans l'époque de la modernisation agricole, il faut produire plus. On peut produire plus dans ce territoire qui est relativement sec déjà à l'époque en irriguant. Et les services de l'État vont promettre la possibilité d'irriguer en faisant un grand barrage sur la rivière Drôme. Parce que déjà à l'époque, les irrigants de Laval disent mais il n'y a pas assez d'eau, il n'y aura pas assez d'eau pour du maïs comme vous nous le demandez. Et à ce moment-là, et c'est de là que vient encore, on entend une forme de rancœur parfois du système des agriculteurs ici, qui vont invoquer l'histoire et la promesse jamais tenue, qu'ils auraient développé, eux, des cultures de maïs et des systèmes d'irrigation collective, parce qu'on leur avait fait une promesse qu'il y aurait de l'eau, parce qu'on ferait un barrage en amont de la rivière Drôme. En fait, ce barrage en amont de la rivière Drôme, il a été pensé et en fait, il a provoqué des mouvements d'opposition dans le Diois. Il devait être dans le Diois, à Saint-Romans, pour différentes raisons. Mais notamment, une des raisons, elle est liée à la différence de projet territorial. Elle est finalement avant l'heure, ce qui se passe aujourd'hui dans le sud-ouest, enfin dans le sud-ouest de la France ou autour des mégabassines. C'est-à-dire que derrière, au-delà du barrage, la question, c'est de l'eau pour qui, pour faire quoi? Et en fait, dans un premier temps, l'amont de la vallée, le Diois, va pas forcément comprendre, pas forcément adhérer à l'idée qu'on fasse un barrage sur leur territoire pour alimenter des cultures intensives de maïs, enfin en tout cas vers la modernisation. Et c'est ça, c'est pas leur vision, c'est pas leur projet de territoire. Alors dans un second temps, ce que vont essayer de faire les services de l'État et le secteur agricole, c'est de dire que ce barrage pourrait être multi-usage, pourrait servir et pour le tourisme, un tourisme dans le Diois, et l'agriculture. Mais là encore, se pose la question de quelle forme de tourisme. Et les acteurs Diois ne sont pas forcément très favorables à un tourisme de masse, qui pourrait entraîner par exemple un grand plan d'eau, mais plutôt déjà dans l'idée d'un tourisme plus doux. Et le barrage finalement va échouer aussi parce qu'à ce moment-là, parce qu'il va y avoir un appui, une alliance faite avec le ministère de l'Environnement. Donc les premiers écologistes qui sont au niveau national. Et au moment où en fait les services de l'État sont en train de basculer justement vers des nouveaux ingénieurs qui arrivent, nouvelle génération d'ingénieurs qui arrivent, beaucoup plus préoccupés par les questions écologiques. Et donc en fait, on est à ce moment charnière où le projet va être abandonné et ça va être la bascule avec des services de l'État qui vont arrêter d'être en soutien d'un secteur économique particulier, que ce soit les carriers ou que ce soit les irrigants, et vont commencer à se préoccuper et à défendre aussi la cause du milieu. Et donc, en même temps que ce projet de barrage, en fait, finalement, échoue avec l'appui national, la contre-proposition, c'est vous allez expérimenter notre nouvel outil de la politique, de la nouvelle loi sur l'eau, qui est cet outil qui s'appelle le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est l'idée qui est élaborée par ce qu'on appelle une commission locale de l'eau, un petit parlement local de l'eau, avec l'idée qu'on met tout le monde autour de la table, et les acteurs économiques qui ont des intérêts privés, et les collectivités locales, et l'administration, et tout secteur d'administration, et on décide ensemble, on discute ensemble pour penser les objectifs et la manière dont on souhaite gérer la rivière tous ensemble autour, à l'échelle du bassin versant.
On est un des territoires où il y a le plus d'historique dans la gestion de l'eau. Pour ce travail de concertation, on a une instance qui est dédiée à ça, qui s'appelle la commission locale de l'eau, et qui a vraiment une particularité, c'est qu'elle est composée de trois collèges, trois groupes d'acteurs différents. Un premier groupe qui s'appelle les élus, donc nos maires, les conseillers départementaux, les conseillers généraux, les présidents de communautés de communes. Il y a une bonne représentation des collectivités territoriales. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'usagers, un deuxième collège, c'est le collège des usagers, justement, dans lequel on va retrouver tous des représentants d'acteurs socio-économiques qui ont un lien avec l'eau. Et puis le dernier collège, c'est le collège des services de l'État. Donc sont représentées les administrations d'État au sein d'un collège qui accompagne les décisions qui sont prises par la clé et qui participent aux décisions même. Voilà. Donc ça, c'est une instance qui a été mise en place en 1993 et qui a travaillé sur le premier SAGE de France qui a été adopté en 1997. Et au gré des changements sur le territoire et des évolutions réglementaires qu'il y a au niveau national ou au niveau européen, dans la vie du SAGE, il y a des phases de révision. Donc il y a une première révision qui a eu lieu en 2012. Et puis une deuxième révision a débuté 2015-2016, et notamment c'est là où la clé s'est dit « Mais tiens, si on essaie d'associer un peu plus les citoyens. »
Alors moi, la commission locale de l'eau, du coup, lors de ma thèse de doctorat, je l'ai suivie d'abord par la lecture de tous les comptes rendus, de tous les travaux qui avaient été menés depuis 1994, en fait. Et puis après, j'ai pu l'observer dans le cadre de ma thèse à partir de 2007, sur 2007-2012. Je l'ai suivi à peu près régulièrement. Et puis ensuite, je suis venue habiter sur le territoire à partir de 2011. Puis après, j'ai été élue sur le territoire, dans la commune de Saillant, à partir de 2014. Et donc, j'ai été représentante de la commune à la commission locale de l'eau. Donc, j'ai vraiment été actrice pendant 6 ans ensuite. Donc moi, j'avais beaucoup observé la commission locale de l'eau, le jeu d'acteurs, l'importance... la surreprésentation notamment du secteur agricole, donc l'importance de certains lobbies, la prégnance aussi de certains élus qui prennent beaucoup de place, la difficulté parfois de certains représentants d'usagers de faire entendre leur voix, l'invisibilisation de certains enjeux. Et quand j'ai été moi-même représentante à la commission locale de l'eau, j'ai un peu mieux compris pourquoi. J'ai trouvé ça très impressionnant et moi-même très difficile d'oser prendre la parole dans cette instance-là. C'est plus de 50 personnes, en fait, autour d'une table, avec une façon de procéder assez classique en démocratie représentative, où, en fait, il y a quand même un point important du président et de son exécutif, où les aspects techniques prennent beaucoup de place. Donc il y a les techniciens qui sont là, le syndicat de rivière qui amène plein d'éléments. C'est très important, mais c'est difficile, des fois, d'en prendre connaissance et de pouvoir avoir, en temps réel, un avis sur tout ce qui est présenté, de pouvoir s'exprimer. Donc autant dire que ce qui m'a le plus perturbée, c'est la difficulté à faire fonctionner une instance qui serait censée être délibérative, mais où finalement on voyait des conditions, on va dire, procédurales pas bien réunies pour que la délibération fonctionne bien en termes d'équité de temps de parole ou de capacité à pouvoir former un avis éclairé à partir d'informations suffisantes. Enfin voilà. En fait, cette démocratie représentative, elle a fonctionné pas mal, hein, mais elle a des limites, et des limites qui sont de plus en plus mises en évidence, mais comme d'une façon générale en France, les critiques qu'on adresse à la démocratie représentative. Et donc, dans la Drôme, en 2015, en fait, j'ai été effectivement à l'initiative d'un projet de recherche-action pour se poser la question de comment on pourrait impliquer davantage les citoyens, on va dire les citoyens ordinaires, pas des représentants de citoyens, à l'élaboration de leur politique de l'eau. Et donc, à l'élaboration, pourquoi pas, de leur schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a 350 personnes différentes qui ont participé. Et c'est un peu frustrant, 350, c'est pas tant que ça. Ça montre bien qu'on a une culture de la démocratie, de la participation citoyenne qui n'est pas très poussée encore. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même fait 150 propositions qui ont été compilées, reprises par le syndicat de la Rivière Drôme. Et là où c'est vraiment intéressant, deux points. D'une part, ça a permis au syndicat de la Rivière Drôme de conforter le fait que il couvrait bien l'ensemble des besoins ou des enjeux des usagers. Donc ça, c'était un point intéressant. Ça a mis l'accent sur certains enjeux qui étaient un peu moins traités que d'autres, comme notamment la problématique des canaux ou ce genre de choses. Et en tout cas, ils ont compilé ce travail et ça a été ils s'en sont servis comme base qu'ils ont soumis aux élus pour élaborer ensuite le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et surtout, un autre impact induit qui n'était pas forcément nous celui qu'on recherchait, mais on va voir que ça a une importance à mon avis absolument cruciale, c'est que ça les a amenés à changer leur méthode de travail en interne. Et donc, d'une part, ils ont renforcé leur service de communication. Ils se sont un peu ouverts à l'extérieur, une capacité à accueillir du public, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Et puis, ils ont changé la méthode de travail au sein de la commission locale de l'eau. J'ai commencé tout à l'heure en disant que cette commission locale de l'eau, 50 autour de la table, avec un président qui parle, assis à côté du préfet, des services de l'État, etc., c'était impressionnant. Ça ne favorisait pas du tout la prise de parole. Et bien, pour l'élaboration de leur schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ils sont partis beaucoup plus sur des réunions en petits groupes, assez horizontales, avec une base de travail à partager, des systèmes, enfin toutes des méthodes en fait, d'éducation populaire qui favorisent la participation du public, qu'ils ont appliqué déjà à leurs membres de la commission locale de l'eau. Et je pense que ce changement de culture, là on est sur de la culture délibérative déjà, savoir discuter et prendre des points de vue en commun avec une pluralité de visions autour de la table, et bien donc commencer à l'appliquer à eux-mêmes déjà. Et ça je pense que c'est un tournant essentiel pour ensuite élargir à l'ensemble des citoyens. Et la dernière chose importante qu'ils ont faite, c'est qu'à partir de ce projet SPER, ils ont aussi ouvert les réunions de la commission locale de l'eau à un public extérieur. Et donc ça existe encore aujourd'hui. Leur règle de fonctionnement autorise, alors le problème c'est que c'est à discrétion du président, hein, c'est pas encore très 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 inclusif, mais autorise la présence de 2 à 6 personnes, 2 citoyens lambda, de venir observer ce qui se passe.
Le SAGE, c'est un document qui serait écrit tous les 15 ans à peu près. Donc là, on est en phase de réécriture. On a voulu, dans cette nouvelle réécriture, faire une prospective haut à l'échelle 2050, parce qu'il nous semblait très important de se projeter dans l'avenir de façon à pouvoir anticiper les choses.
Moi, quand j'étais recruté en 2020, en plein Covid, c'était justement pour rédiger le SAGE. Des nouveaux élus sont arrivés, il y a eu les années de sécheresse 2020-22, et du coup, là, la commission locale de l'eau a décidé de faire une étude d'adaptation au changement climatique. Et c'est ce travail-là qui vient de s'achever et qui nous permet maintenant de relancer les travaux de rédaction du SAGE. Donc, les deux principaux enseignements, c'est des étiages de plus en plus précoces, et puis cette baisse des débits, notamment sur le mois de juin, on parle de moins de 30% des débits. Quand on voit que c'est le moment où les besoins, notamment pour l'agriculture, vont être les plus importants, avec ces augmentations d'évapotranspiration, on se retrouve avec un effet de ciseau, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de besoins et là où l'eau va être la moins disponible. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'évolutions et d'accompagnements à avoir pour qu'on puisse passer au mieux cette marche-là qui nous attend. Et en fait, c'est énorme, 30% en moins. C'est sur le papier, on se dit que l'agriculture ne va plus pouvoir faire comme aujourd'hui. Sur l'utilisation de la ressource en eau potable, on ne va plus pouvoir faire comme aujourd'hui. l'usage baignade ou l'usage de la pratique du canoë kayak tel qu'on l'a fait aujourd'hui, est-ce que ça sera encore ça en 2050? On n'en a aucune idée, en fait. Et c'est comme ça qu'on a mobilisé plus de 200 personnes dans des ateliers pour partager déjà ce qu'est le changement climatique en 2050, qu'est-ce que ça va donner. On a mobilisé toutes les têtes de réseau structurées sur le territoire, dans tous les domaines. Qu'on ait une approche vraiment très plurielle dans les différentes catégories d'usagers qu'on pouvait avoir. Donc ça a pris du temps, hein. Il y a eu plusieurs séries d'ateliers avec tous ces acteurs. Et c'est comme ça qu'on a une stratégie en quatre axes qui a été arrêtée. Le premier axe, c'est la sobriété. Toutes les économies d'eau, on va aller les chercher finalement, pour éviter de consommer de l'eau inutilement, évidemment. Le deuxième axe, c'est la résilience. J'utilise souvent l'image de l'éponge. Faire de notre territoire une éponge, finalement, pour retenir le plus possible l'eau sur notre territoire. Alors, ça passe par toutes les solutions fondées sur la nature, restaurer toutes ces zones humides, les cours d'eau qui, des fois, ont été un petit peu saccagés. Donc voilà, faire un travail vraiment spécifique sur ces aspects-là. Aussi, investiguer ce qui nous est proposé par le biais de l'hydrologie régénérative. Ça, c'est un concept qui est très drômois, hein, d'ailleurs, et qui est en train de faire un peu tache d'huile sur notre territoire. Et du coup, comment est-ce qu'à large échelle, on peut envisager d'autres aménagements du territoire pour avoir des paysages qui, justement, régénèrent l'eau. Donc ça, c'est le deuxième axe résilience qui est vraiment axé sur plus l'aménagement du territoire, on va dire ça comme ça. Il y a un deuxième axe qui est sur le partage de la ressource. Par le mot partage, finalement, c'est est-ce qu'on continue avec les règles de partage que l'on a aujourd'hui ou est-ce qu'on les change pour mieux s'adapter demain? Et ça a des répercussions très politiques, hein, entre les différentes catégories d'usage. Généralement, on parle de trois catégories d'usage: l'usage eau potable, l'usage agricole et l'usage industriel. L'usage industriel est assez marginal, mais il est quand même présent sur le territoire. Et c'est surtout, est-ce qu'on est prêt à voir différemment le partage de ressources entre eau potable et irrigation dans les périodes les plus sensibles? Comment est-ce qu'on peut faire demain pour trouver des alliances de manière à ce qu'on puisse se remettre des marges de manœuvre pour l'accueil de nouvelles populations, peut-être, mais peut-être pour du changement de pratique et avoir d'autres cultures? Enfin, c'est tout ça qui est mis en balance. Il y a une étude qui a été réalisée en 2012 et qui disait que si on voulait laisser de l'eau dans la rivière, sur la période du 1er juin au 15 septembre, il fallait que nous, activités humaines, on ne consomme pas plus de 7 millions de mètres cubes. C'est ce qu'on appelle le volume prélevable, pour garantir un bon état des milieux. L'usage industriel, c'est un peu moins de 350 000 mètres cubes, donc sur 7 millions, ça se voit à peine sur un graphique. Par contre, l'irrigation, c'est 5 millions de mètres cubes qui lui est dédié, et 2 millions de mètres cubes pour l'eau potable. Et ce volume prélevable, on le dépassait déjà quand l'étude a été rendue. On le dépassait de 15% déjà dans les années 2010. Donc on avait un objectif de réduction pour atteindre ce volume prélevable. Et 10 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'y était pas, qu'on a même continué à augmenter. Donc ça pose la question au-delà de... Donc le premier volet, c'était la sobriété, mais à l'intérieur du partage, c'est voir comment est-ce qu'en repartageant les modalités de répartition de ressources, on peut faire différemment et peut-être avoir des gains. Ce qui n'est pas complètement simple. Ça veut dire aussi qu'il faut enchaîner assez rapidement sur le quatrième volet de notre stratégie, qui est la sécurisation, le stockage à substitution des prélèvements que l'on fait aujourd'hui dans nos milieux naturels. Stocker, prélever différemment pour qu'on ait moins d'impact sur la période la plus sensible. Alors ça aussi, hein, ça fait c'est de très vifs débats. Ça a été très compliqué au début. Et là, maintenant, on arrive à se parler, et c'est aussi l'avantage de cette maturité dans la concertation, c'est que tous ces sujets-là, on peut les aborder. Il n'y a pas de sujet tabou, et ça permet de les mettre véritablement sur la table. Et notamment, pour l'installation de nouveaux agriculteurs, ça va être de plus en plus un sujet, parce que les volumes disponibles sont aujourd'hui, au sein des agriculteurs, en place. Et dans la question du partage, c'est ça qui se pose. C'est comment est-ce qu'on peut faire entrer de nouveaux agriculteurs alors que le volume qui est disponible pour le monde agricole, il est figé. Notamment, si vous voulez installer des petits maraîchers pour faire de la consommation locale, ben, il y a des moments où ça coince. On a de plus en plus de demandes et de plus en plus de refus de la part de ceux qui gèrent cette distribution des volumes.
Avec le monde agricole, les discussions étaient très tendues au début. Et puis petit à petit, les choses se passent nettement mieux. Mais ça reste de toute façon des sujets difficiles, la notion de partage. Et souvent, on est dans des positions de premier arrivé, premier servi. Et cette notion de partage, elle est difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand des jeunes arrivent... s'installent en agriculture, ils n'ont pas forcément des droits d'eau. Parce qu'aujourd'hui, la rivière Drôme, c'est ça, c'est des agriculteurs qui ont des droits d'eau et d'autres qui n'en ont pas. Donc c'est un peu avec des discussions qu'on arrive à faire avancer les choses. Historiquement, les réseaux d'eau ont été faits par certaines personnes qui ont fait des investissements. Et aujourd'hui, ces personnes se disent, nous, on a fait l'investissement, donc... on utilise l'eau qu'on a captée, donc faut reprendre un peu l'histoire des choses, hein. Donc c'est pas toujours simple. Alors même si moi je suis pas tout à fait d'accord avec certains points, on est obligé de faire avec l'histoire. Et puis après, les agriculteurs, ils ont toujours dit, nous on a fait l'effort, on a fait des réseaux qui fuient pas, on a des compteurs de prélèvement de partout, et que fait le monde de l'eau potable avec des réseaux qui fuient, avec des communes qui sont encore au forfait, c'est-à-dire on connaît pas le débit d'eau, on connaît pas les consommations d'eau, donc faites un effort du côté des communes, et puis vous viendrez nous revoir. Et bon, le constat, et notamment dans le Diois, était de se dire, oui, effectivement, ils ont pas tort. Il y a des réseaux extrêmement fuyards. Il y a des fontaines qui coulent un peu de partout. Il y a des communes qui sont encore au forfait. Il y a des communes qui n'ont pas l'assainissement. Donc, oui, ils ont quelque part un petit peu raison. On doit faire un effort. Donc c'est ce qui a été fait dans le Diois. Depuis 2016, on s'est lancé dans des programmes de raisonnement de l'eau. Beaucoup de communes ont fait des schémas directeurs, beaucoup de communes ont fait des recherches de fuite, des poses de compteurs, des réseaux d'assainissement, des refections de réseaux d'eau potable. Il y a eu 10 millions d'euros de travaux faits dans le Diois. Ce qui fait qu'entre 2016 et 2022, on a économisé 1 million de mètres cubes avec ces travaux. Et je sais qu'intuitivement, comme ça, en connaissant un peu le fonctionnement des communes, qu'on peut faire mieux. Et je crois qu'on est vraiment dans une démarche collective où et le monde industriel, et le monde agricole, et le citoyen, et les communes doivent aller vers cet effort dans un premier temps, de savoir ce qu'on consomme pour demain économiser. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est un outil réglementaire qui ne touche pas forcément que l'agriculture, d'ailleurs, qui touche tous les usages de l'eau, puisque je joue entre le PLU Diois ou le SCOT Basse-Vallée de la Drôme, ça a aussi des répercussions sur l'urbanisation de demain, sur le nombre de populations qu'on va accueillir, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment un outil, c'est presque un outil de développement pour le futur, quoi. Hein.